au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Academy. Dans cette émission, je vous propose d'évoquer l'une des figures majeures de la théologie chrétienne du XXe siècle, qui fut tout à la fois homme d'Église, voyageur, explorateur, savant de la préhistoire, le père Pierre Teilhard de Chardin, jésuite, né en 1881 et mort en 1955. Il avait été élu à l'Académie des sciences comme correspondant de la section minéralogie le 9 juin 1947. Et plusieurs liens d'études ou d'amitié unissent Teilhard à des académiciens. Dans sa jeunesse, par exemple, il fut l'élève d'Henri Brémond de l'Académie française, une grande figure que l'on redécouvre en ce moment en 2008 et qui fait l'objet d'émissions sur notre radio. Après la guerre, comme paléontologue, il travaille avec de nombreux préhistoriens, Marcelin Boulle, Émile Lissent et l'abbé Breuil de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et il fut aussi l'ami du cardinal Henri de Lubac de l'Académie des sciences morales et politiques, sur lequel nous avons fait également de nombreuses émissions. Bref, nous avons mille raisons à Canal Académie d'évoquer Pierre Teilhard de Chardin. Et un premier constat s'impose, il faut le dire, je crois, l'œuvre de Teilhard est difficile d'accès. Son œuvre majeure, Le phénomène humain, ne se lit pas aisément, nécessite une bonne connaissance des termes utilisés par l'auteur pour être appréhendé. Alors la question qui se pose est celle-ci. Existe-t-il un moyen d'aborder l'œuvre de Teilhard de manière simple sans toutefois la déformer? Un moyen de plonger dans la pensée, l'œuvre et les idées? Peut-on mieux connaître la personne, ses joies, ses peines, sa vie? C'est la question que je vais poser à mon invité, Patrice Boudignon, puisqu'il a publié en avril 2008 aux éditions du Cerf une biographie de Pierre Teilhard. Patrice Boudignon, bonjour.
Bonjour Hélène Renard.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes titulaire d'un master en histoire des religions et vous poursuivez des recherches à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, des recherches sur la correspondance de Teilhard en vue d'un doctorat. Autrement dit, vous êtes chez Teilhard, avec Teilhard, toute la journée et peut-être même un peu la nuit.
Je passe mon temps à lire des lettres de Teilhard, effectivement.
Alors, pour répondre à ma question, existe-t-il un moyen simple d'aborder Teilhard pour les gens qui n'osent pas se plonger dans son œuvre?
Je vous remercie de me poser cette question parce que, au fond, c'était la question que je m'étais posée il y a 3 ans lorsque j'avais peiné pour accéder à la pensée et à la vie de Pierre Teilhard de Chardin. Et je m'étais dit, au fond, tout ce parcours que j'ai mis plusieurs années à faire, je vais le résumer, l'expliquer, le décrire dans un livre que j'axerai plus sur la vie de la personne Pierre Teilhard de Chardin, puisque sa vie est quand même assez passionnante. C'est une vie d'aventure, de voyage et de découverte et d'amitié. Une vie assez passionnante et par l'homme, je pense qu'on pourra s'intéresser, j'en dirai un peu dans ce livre, j'en ai quand même dit pas mal, sur sa pensée pour permettre à ceux que ça intéresse de se plonger davantage dans son œuvre et dans sa réflexion. Et puis, évidemment, le gros avantage pour ma biographie, c'est que je me suis appuyé sur une correspondance extrêmement importante de Pierre Teilhard de Chardin, qui a été éditée en grande partie, qui n'est plus totalement éditée aujourd'hui, les livres ne sont plus au catalogue, mais enfin, grâce à cet outil merveilleux qu'est Internet, ceux qui veulent chercher sa correspondance, dont je donne la bibliographie dans mon livre, peuvent la trouver pratiquement intégralement sur Internet, enfin celle qui est éditée intégralement sur Internet. Et c'est un excellent moyen d'accès à l'œuvre et la pensée de Pierre Teilhard de Chardin. Dans ce parcours, il y a eu un moment très fort, c'est quand j'ai découvert un recueil de lettres, les lettres à Lucille Swann, grande amie de Teilhard de Chardin, grande confidente et qui l'a beaucoup aidé par sa présence et ses encouragements. Ces lettres ont été publiées c'était en 93 aux États-Unis et je les ai découvertes un peu au moment où je bataillais un peu dans Teilhard de Chardin. Et du coup, ces lettres m'ont donné le sentiment de m'ouvrir une fenêtre sur l'homme. Teilhard se racontait très librement à Lucille Swann et expliquait sa façon d'être. Enfin, vraiment, ce sont des lettres absolument extraordinaires. Alors, elles sont éditées en anglais aujourd'hui, puisque Lucille Swann ne parlait pas français, donc il correspondait en anglais. Une rumeur concordante m'annonce la publication, une traduction française de ces lettres, donc je conseillerais le jour où elles paraissent de les lire. Et moi-même, je travaille actuellement un deuxième stock de lettres qui sont les lettres Aïda Trite, autre grande correspondante et confidente de Teilhard. Et j'espère que ces lettres, dans une version très, très travaillée, avec introduction, notes et commentaires, parce qu'elles ont déjà été éditées, mais de façon insuffisante, j'espère que ce livre pourra paraître l'année prochaine.
Alors, vous parlez d'un stock de lettres. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du volume de cette correspondance de Teilhard ?
Je n'ai pas des comptes très précis. Il y a 20 ans, le premier qui s'est lancé là-dedans, un peu plus, 20 ou 25 ans, Gérard Baudry, en a dénombré 1026 exactement, ou 1060, enfin, je n'ai plus un chiffre très précis. Mais je dirais que moi, j'en ai trouvé beaucoup d'autres depuis. Je suis plutôt aux alentours de 1500 à 1600 lettres identifiées. Je pense qu'il y a dû en avoir beaucoup plus, parce que Teilhard a énormément écrit, énormément.
Alors, j'allais vous demander, à qui écrit-il ? Pourquoi écrit-il autant ?
Alors, il y a toute une réflexion à mener sur la lettre chez Teilhard de Chardin, l'écriture. Il le dit d'ailleurs lui-même, il écrit... Il y a d'abord cette formation jésuite de départ, où je pense que chez les jésuites, toutes les semaines, on devait mettre des internes dans une salle en disant « Vous écrivez à vos parents, les parents devaient leur écrire. » C'est certainement un point de départ. Mais Teilhard a eu besoin d'échanger, besoin de se confier, toujours ce besoin d'expliquer, la plume à la main. Teilhard est un homme qui écrit, il écrit. Je raconte dans mon livre, il y a des lettres très amusantes, pratiquement n'importe où. C'est plus une question de temps, d'être un peu en arrêt, en attente à un moment ou à un autre. Quand il décrit cette fameuse lettre où il est sur le fleuve jaune, en train de descendre le fleuve jaune sur une espèce de radeau plus ou moins instable, évidemment, il n'a pas grand-chose à faire, c'est pas lui qui manœuvre, donc il est sur un coin de caisse, je sais pas, il trouve un papier, un crayon, et il écrit une lettre. Donc, il a des moments d'attente, des soirées longues en voyage, il écrit. Et puis, il y a des lettres qui sont très touchantes, il dit, mais c'est quoi de faire de plus que de bavarder avec vous, dit-il à sa correspondante en écrivant une lettre.
Mais c'est aussi pour lui un moyen de s'expliquer, de mettre à plat sa pensée.
Certainement. Et ces lettres, d'ailleurs, ça me donne des idées pour plus tard, si vous voulez. Il faut les mettre un peu en réponse à tous ces textes. L'œuvre écrite officielle de Teilhard de Chardin, enfin, l'œuvre éditée par les éditions du Seuil, en 12 volumes, au fond, est pleine de petits textes, quelques pages pour les plus courts, même je crois qu'il y en a un d'une page, jusqu'à une centaine de pages pour les plus longs, même pas tout à fait. Sauf le Phénomène humain qui est un véritable livre et qui s'insère là au milieu. Mais tous ces textes répondent à des instants de débat chez Teilhard. On le voit bien, il dit dans une lettre, ah j'ai réfléchi à tel problème, j'ai écrit tel texte, mélangeant d'ailleurs la paléontologie et la théologie, et il écrira un texte. Donc beaucoup de ces textes sont à lire d'ailleurs, avec la difficulté, c'est de trouver les lettres qui parlent du texte qu'il est en train d'écrire. Non, mais c'est pour confirmer qu'il y a vraiment un besoin d'écrire chez Teilhard.
Mais on sait aussi que Teilhard a eu des ennuis avec Rome et qu'il a été obligé de ne pas publier officiellement des textes. Est-ce que du coup ça a multiplié sa correspondance ? Est-ce que la lettre était une manière de détourner l'interdit de Rome, au fond ?
Certainement, ça a joué. D'abord, ça a été un sujet de lettre, mais en plus, le fait de pouvoir se confier à des amis, c'était un moyen aussi pour Teilhard de tester ses idées. Il leur disait, je vous envoie tel texte, dites-moi ce que vous en pensez. Il cherchait des lecteurs.
Il cherchait des lecteurs, absolument. Alors, revenons un tout petit peu à sa biographie, à ses jeunes années. Teilhard, je l'ai dit, est né en 1881 et il a été mobilisé pour la guerre de 14 comme brancardier. Il arrive donc au front en 1915. Est-ce que là, il écrit aussi ?
Teilhard a un jugement sur la guerre qui surprend. Il dit oh, « Ah, si je pouvais encore être pendant les années de guerre ». Alors, évidemment, heureusement, une tenue parfaite au combat. Il a été décoré, citation, enfin bref, sa conduite est exemplaire.
Et il en est ressorti, hein, mais, être sous le feu comme brancardier.
Il n'a eu aucune blessure. Oui. Hein, aucune blessure. C'est assez extraordinaire. Mais, heureusement, tous les soldats n'étaient pas en permanence au feu. Donc, il y avait des longues périodes des relèves, de longues périodes d'inaction à l'arrière. Et ce sont ces périodes d'inaction où il n'y avait vraiment rien à faire que Teilhard emploie à écrire. Et pendant la guerre, les 4 ans ou un peu plus pour lui, puisqu'il est mobilisé jusqu'en début 1919. Et ces 4 ans sont extrêmement féconds en lettres privées et en textes. Ça fait 2 gros volumes aujourd'hui d'écrits qui ont été rédigés pendant la guerre de la part de Teilhard.
Alors, après la guerre, il commence une formation qui a l'air d'être une double formation où il semble hésiter entre deux voies, la théologie et la géologie. Est-ce qu'il hésite vraiment ou est-ce que c'est moi qui ai perçu ça comme ça?
C'est mes titres, j'essaye un peu de résumer. Non, c'est que les ennuis de Teilhard avec l'Église démarrent à ce moment-là, puisqu'il a ce fameux texte sur le péché malheureux, un théologien qui ose toucher au dogme du péché originel.
Ce sont quelques notes sur quelques représentations historiques possibles du péché originel. Vous voyez les précautions qu'il a prises.
Très vrai, c'était un brouillon de réflexion au fond. Et ce texte, il le rédige, il en fait quelques, pas des photocopies à l'époque, je ne sais pas combien d'exemplaires il avait fait, mais il en remet à un théologien lors d'une visite à un séminaire en Belgique. Et visiblement, cette personne n'a pas été très délicate puisque l'exemplaire s'est retrouvé quelques temps après à Rome.
Mais là, on était en 1924, mais on va revenir à sa formation. Alors, pourquoi aurait-il hésité entre théologie, géologie, et que ça lui aurait valu des ennuis?
C'est bien à partir de là. C'est parce qu'au fond, à ce moment-là, l'hostilité de sa hiérarchie a été tellement forte qu'on lui a brimé toute velléité de s'occuper d'autre chose que de travaux scientifiques. Teilhard était jésuite, beaucoup de jésuites étaient des scientifiques, ils sont des scientifiques. Donc c'était pratique pour tout le monde que Teilhard se consacre à la recherche scientifique, à l'exploration géologique et paléontologique en Chine. C'est pour ça que je dis géologie ou théologie. C'est-à-dire qu'il y a ce débat, Teilhard essaye de défendre son droit à penser religieux, puisqu'il est religieux, à faire des réflexions religieuses. Mais sa hiérarchie lui dit, surtout pas, c'est très bien, restez en Chine et ne faites pas trop de bruit là-bas, creusez le sol, cherchez des squelettes, tout ce que vous voudrez, des fossiles. C'est pas Teilhard qui hésite, c'est sa hiérarchie qui veut l'empêcher.
Oui, et qui freine sa vocation de savant, en fait.
Voilà, qui appuie sur sa vocation de savant, en disant, s'il est savant, il nous fichera la paix avec des réflexions religieuses. Savant, il nous fichera la paix avec des réflexions religieuses. Voilà. C'était ça l'idée. Hein. C'était de se dire, en faisant de la recherche, il ne s'occupera pas de réflexions religieuses.
Hein. D'accord. En 1923 paraît l'un de ses écrits, sans doute les plus abordables, en tout cas le plus connu, La messe sur le monde. Quelle est l'idée qu'il développe principalement dans ce texte?
La messe sur le monde est d'abord un texte très beau à lire, c'est un des plus poétiques de Teilhard, puisqu'il y a cette idée de réveil le matin, de pratique religieuse, de dire sa messe en pleine campagne chinoise, tôt le matin, lorsque le soleil se lève. Enfin bref, on imagine la scène dans la désolation relative. Et à ce moment-là, Teilhard a un récit où il décrit le monde comme un organisme vivant. C'est déjà une des grandes idées de Teilhard, c'est cette socialisation de l'humanité, ce regroupement, cette marche, ce qu'il appellera la convergence, cette marche à la personne, enfin, le dur des idées de Teilhard. Mais il le fait d'une façon très poétique en expliquant que tous les efforts de chaque individu sur la Terre ne sont au fond que les éléments rassemblés d'un vaste effort qui dépasse chacun. Et il le dit de façon extrêmement poétique et extrêmement claire.
Alors, la messe sur le monde ne lui a pas valu d'ennui, mais le texte paraît l'année d'après, c'est-à-dire, on en a parlé, ses notes sur quelques représentations historiques possibles du péché originel en 1924. Alors là, ça déclenche l'irritation romaine.
Voilà.
Pas de tout le monde d'ailleurs à Rome. Hein. On a vite fait de dire Rome, c'est un ensemble cohérent, mais après tout.
Enfin, du sommet, en
oui,
tout cas.
Oui, du sommet, enfin, en tout cas de la hiérarchie.
Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire religieuse et encore moins de l'histoire du Vatican, mais il y avait visiblement des gens qui refusaient à ce qu'il y ait des débats.
Sur l'évolution,
Sur tout, en fait. Mais l'évolution, à l'époque, il y avait effectivement. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde comprend et sait ce que c'est l'évolution. C'est un fait, si vous voulez, maintenant, aujourd'hui. À l'époque, dans une partie de l'Église, il y avait le refus de considérer l'évolution comme l'histoire du monde. C'était la Genèse, c'était pas du tout ce que découvraient les savants. Le débat a remonté, d'ailleurs, au début du XIXe siècle.
Absolument. Alors, la grande passion de Teilhard, c'est tout de même la paléontologie. C'est donc, il l'exerce principalement en Chine. Alors, il va faire de très nombreux voyages en Chine. Enfin, très nombreux. Ce ne sont pas des voyages, d'ailleurs. Le mot est impropre. Ce sont plutôt des expéditions savantes.
Ce sont des missions scientifiques. On peut parler de missions scientifiques, c'est le point de départ. L'expédition est financée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, la première expédition de Teilhard en Chine.
En 1923. Oui. Alors, de 1923, vous dites dans votre livre, à mars 1946, il va passer en tout plus de 17 années en Chine, en 10 séjours, dont... Alors la grande période de 1939 à 1946, c'est-à-dire les années de guerre au fond, 6 ans et demi en Chine et 7 expéditions majeures. C'est vraiment un grand savant de la paléontologie.
Oui, mais et puis là, moi, ça fascine toujours. Nous sommes quand même à une époque où même si le train, l'avion, l'avion, il n'a pas pris, il a pris quelques fois l'avion, d'ailleurs, mais pas beaucoup. C'était surtout en train, en bateau, en char à bœufs, à bœufs et à dos de mulet en Chine la plupart du temps. Donc les moyens de transport n'étaient quand même pas terribles. C'est la vitalité et le courage physique de cet homme qui, pendant des années, va se faire des expéditions qui sont des expéditions qui devaient être fatigantes physiquement.
Parce qu'il va dans des coins qui ne restent pas à Pékin.
Ce décompte est un peu approximatif, je le crains. C'est difficile, parce que là-dedans, je ne mets pas les temps de transport.
Oui, vous avez résumé, mais enfin, c'est pour donner une idée.
Il reste 23 ans absent de France, et il doit passer à peine 2 ou 3 ans au total sur les 23 quand il revient en séjour de quelques mois. Il passe 23 ans en dehors de France.
23 années pendant lesquelles, alors, il fouille, il fait des découvertes.
En fait, il est associé à des découvertes extraordinaires, à Java, aux Indes. Mais je dirais qu'on pourrait résumer, là, très rapidement, la première grande découverte à laquelle est associé Teilhard, ce n'est pas lui qui fouille directement, c'est la découverte du synanthrope en Chine, qui est une découverte importante dans l'histoire de la préhistoire. Ça a été une grande étape à l'époque.
Dans le site de Shukutian.
Ça s'appelle Zhukutian maintenant.
Zhukutian, d'accord.
Et ça se visite, Il faut aller à Pékin pour visiter le site. C'est à 50 ou 60 km de Pékin. Ça se visite. Les Chinois ont fait des installations extrêmement modernes et extrêmement bien faites. Où on parle de Teilhard d'ailleurs.
Donc je vois que vous êtes allé sur place.
Je n'y suis pas allé, mais une amie y est allée, heureusement.
Une amie vous a raconté, vous avez mis un reporter.
J'ai eu un reporter.
Dites-nous un mot aussi de la croisière jaune.
Alors l'autre événement, si on peut dire scientifique, parce que l'objet de la croisière était plus commercial que scientifique, c'est la participation à la fameuse croisière Citroën, qui enchanta beaucoup de jeunes comme moi. J'ai découvert très tôt l'histoire de la mission Citroën, je dois avoir 4 ou 5 ans. On achetait des petites autos Dinky Toys, qui représentaient la croisière jaune. Mais c'est beaucoup plus tard que j'ai découvert qu'il était Teilhard et qu'il avait fait partie de la croisière Citroën. Ça a été un moment très rocambolesque, très médiatisé, dont Teilhard lui-même dit « j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de géologie », même s'il a pu aller voir des contrées qu'il n'aurait jamais été voir, notamment le Xinjiang. Il y a un séjour coincé par des difficultés politico-militaires. Il reste plusieurs mois au centre du Xinjiang, ce qui donne un prétexte à écrire des lettres qui sont absolument charmantes à lire. C'est dans des décors absolument extraordinaires. Il écrit à des lointains européens, il raconte ce qu'il fait, c'est assez délicieux. Mais ça a été une expérience pour lui, une expérience humaine très, très riche et très intéressante, plus que scientifique.
Alors Patrice Bodignon, l'un de vos chapitres au centre du livre, c'est sans doute pas un hasard, s'intitule « Comment je crois ?» et ça reprend le titre d'un texte de Teilhard. Et c'est un texte qui a une histoire, c'est un texte qui est court, une quarantaine de pages, vous dites qu'il est d'une lecture facile, mais j'ai trouvé 4 phrases brèves qui s'enchaînent impeccablement et que je voudrais lire. Elles sont dans la page 165 de votre livre. « Je crois que l'univers est une évolution. Je crois que l'évolution va vers l'esprit. Je crois que l'esprit dans l'homme s'achève en du personnel. Je crois que le personnel suprême est le Christ universel. » Est-ce qu'il n'y a pas là le résumé de toute la croyance et de toute la pensée de Teilhard ?
Si, si. Il a le sens des formules en 4 phrases qui marquent un enchaînement et une clarté remarquable. Teilhard a mis le cœur, le point. Toute étude de la réflexion de Teilhard doit commencer par ces 4 phrases et essayer de comprendre comment, de les expliquer une par une.
Alors je vais fortement conseiller à nos auditeurs, s'il n'y avait qu'un seul chapitre à lire dans le livre de Patrice Bodignon, de lire ce chapitre-là, « Comment je crois ?» car il est extrêmement éclairant pour comprendre la pensée de Teilhard. Mais il y a donc un autre texte très important. Vous avez dit tout à l'heure que c'était un livre bien achevé. C'est justement lors de son dernier séjour en Chine, c'est-à-dire de 1939 à 1946, il achève le phénomène humain. Et vous dites que ce livre tient une place à part dans l'œuvre écrite de Teilhard. Et pourquoi donc ?
Parce que déjà, dès le départ, il tient une place considérable dans la vie de Teilhard, dans le besoin d'écrire de Teilhard. Ce livre, il en parle dès la fin des années 20. Livre sur l'homme, livre sur la terre, il a plusieurs titres. Il veut l'écrire. Alors c'est là où le rôle de ses amis est très important, tant Idatrite et surtout Lucille Swann. C'est qu'il le pousse à écrire ce livre. Et il faut l'immobilité forcée, parce que quand il est bloqué en Chine de 39 à 46, c'est par la guerre, il ne peut pas bouger, donc là, il a du temps. Et il va écrire son livre. Et il va y avoir une véritable tension dans l'écriture de ce livre. C'est dans ce qui représente de tension et de désir d'écrire de Teilhard, ce livre. Il est pour lui, ça va être le point, ça l'empêchera pas de refaire le point après, mais au moment où il l'écrit, ça va être le point final. Et c'est le livre qui va aller amener à Rome, et Rome va comprendre en le lisant et tout. Rome recevra le livre, ne le lira sans doute pas, il comprendra rien. Enfin bref, ça sera l'incompréhension totale à propos de ce livre. Donc, c'est ce livre et c'est là. Mais sa démarche, au fond, elle est un peu en trois temps. Il y a sa foi de naissance, il a la foi à Théard. Il n'y a pas d'événement créateur, ça c'est important chez Théard. Il n'y a pas brusquement un jour une révélation chrétienne. Non, il naît avec la foi, il pratique dès l'enfance, il a toujours souvenir. Il a aimé ça, il est religieux, Théard. Donc après, il va être prêtre et jésuite. Ensuite, il découvre les sciences. Comme il est extrêmement intelligent et qu'il observe et qu'il comprend, il voit le monde, il comprend l'histoire du monde. Et puis quand il voit le monde, c'est pas la presse qui lit, hein, c'est le monde depuis la création jusque... Quand il découvre la paléontologie et la préhistoire avant la guerre, il découvre l'histoire avec un grand H, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc il comprend qu'il y a quelque chose qui ne colle pas entre ce qu'on lui a raconté, le dogme religieux tel qu'on lui a raconté, et ce qu'il voit. Donc il va faire un effort de réflexion pour remettre tout ça à l'heure. Ça va être, le temps de réflexion de la guerre va être très important. Et après la guerre, il n'aura de cesse, non pas tellement d'expliquer le dogme religieux, mais d'expliquer l'histoire telle qu'il l'a étudie, telle que l'étudient les scientifiques, pour dire, mais voyez, l'histoire est en train de se déroule tel que le dogme religieux, au fond, a essayé de le décrire, et je vais l'aider à décrire, à se mettre en phase avec cette histoire. C'est cette façon de penser qui est intéressante chez Théard. Et toute sa vie, des années, début des années 20 jusqu'aux années 55, tous ces textes, y compris le phénomène humain qui est le plus gros et le plus important pour lui, mais vont être là pour dire, voyez, le phénomène de l'évolution colle avec le phénomène chrétien, au fond. Qu'on le prenne, comme je dis à un moment, par le bout de la matière ou par le bout de l'esprit, ça coïncide. Voilà la démarche de Théard.
Justement, vous citez dans votre livre, à la page 226, le but. Théard a expliqué lui-même le but de son livre, Le phénomène humain. Je voudrais lire quelques lignes, parce que je me suis permis d'en couper un petit peu pour que ce ne soit pas trop long. Mon seul but et la vraie force au cours de ces pages est simplement de chercher à voir, c'est-à-dire à développer une perspective homogène et cohérente de notre expérience générale étendue à l'homme, un ensemble qui se déroule. Qu'on ne cherche donc pas ici une explication dernière des choses, une métaphysique, et qu'on ne se méprenne pas non plus sur le degré de réalité que j'accorde aux différentes parties du film que je présente. Je ne prétends pas les décrire comme elles ont été réellement, mais comme nous devons nous les représenter afin que le monde soit vrai en ce moment pour nous. Le passé, non en soi mais tel qu'il apparaît à un observateur, placé sur le sommet avancé où nous a placé l'évolution. Méthode sûre et modeste, mais qui suffit, nous le verrons, pour faire surgir par symétrie en avant de surprenantes visions d'avenir. Et ça, c'est bien Théard, voilà. À la fois très attaché au plus lointain passé de l'humanité et à la fois donnant un exactement. Avenir à l'humanité. Exactement. Les deux côtés, exactement. C'est ça qui est séduisant dans sa exactement. Pensée, n'est-ce pas ?
Exactement.
Patrice Boudignon, je laisserai nos auditeurs découvrir tout le reste de la vie de Théard, car on ne peut pas tout aborder, mais dans votre livre, évidemment, elle est beaucoup plus complète qu'on ne peut le dire ici. Un dernier mot sur le jour de sa mort, 1955.
Oh, sur le jour de sa mort, il meurt. J'ai plus le jour exact.
Enfin, le jour de Pâques.
On sait que c'est voilà. Le jour de Pâques, oui, mais on ne sait pas quel jour, c'était. Pâques est une fête flottante. Il meurt le jour de Pâques au sein d'un petit groupe d'amis. Il a une mort très sobre, très, très rapide, au fond, qui est très triste comme toutes les morts. Et comme il n'est pas chez lui...
Il est à New York.
A-t-il d'ailleurs... J'étais jamais chez lui quelque part. Il est chez une amie, il est chez Rhoda Terra, en fait, qui a été très... Heureusement, il a eu une amie comme Rhoda Terra à la fin de sa vie, parce que ce n'était pas tous les jours très drôle pour lui à New York. Ils sont donc quelques amis. On aura du mal à prévenir, évidemment, les proches et les intimes qui sont ses amis jésuites. Il n'y en a pratiquement aucun qui est là. Il y a la hiérarchie jésuite de sur place à New York, mais qui ne sont pas ses amis intimes. Il y aura quelques personnes de l'ambassade. Et puis, il y aura Lucille Swann, Rhoda Terra et Ida Tritt, les trois grandes amies de Théard.
Les trois femmes auxquelles il a beaucoup écrit. Et vous détaillez beaucoup dans votre livre ces relations. Oui, c'est aussi un des intérêts de votre ouvrage. Si vous aviez à résumer Théard à des gens intéressés mais qui ne l'ont jamais vraiment lu, quel caractère donneriez-vous essentiel de cet homme ? D'abord son attachement à la foi chrétienne, ça vous l'avez dit, indéraciable.
Théard est un chrétien, est un penseur chrétien.
Voilà. Un savant aussi.
C'est un savant. Je crois que son œuvre scientifique, je n'ai jamais trouvé pour l'instant d'études sur l'œuvre scientifique de Teilhard en tant que telle, mais est une œuvre qui maintenant est dépassée, parce que c'est une œuvre qui date il y a déjà pas mal d'années, mais qui, à son époque, était une œuvre importante. Quand Teilhard termine sa vie à un âge avancé, puisqu'il débarque à New York pour la dernière période à l'âge de 71 ans, quand il est payé par une fondation américaine pour superviser les fouilles en Afrique du Sud, c'est sa valeur scientifique. Ce n'est pas sa sympathie, ce n'est pas son litige avec l'Église, c'est parce qu'on sait qu'on peut lui faire confiance sur le plan scientifique. Donc Teilhard est un grand scientifique, ça ne fait aucun doute.
C'est aussi un homme d'Église, ça ne fait aucun doute non plus. Et d'ailleurs, un homme de son ordre aussi, son ordre, les Jésuites.
Et il a été heureux que chez les Jésuites, c'est aussi un point important, qui individuellement, si la hiérarchie jésuite n'était pas très à l'aise avec ce conflit avec l'Église, ça ne fait aucun doute, il a eu des soutiens individuels dans la compagnie qui ont été très forts. Je veux dire que c'est ça qui lui a...
Notamment celui du père de Lubac.
Et
Bruno de Soulages aussi, je crois.
De Soulages
n'était pas jésuite, voilà.
Mais j'en cite pas mal, il y a Douins, il y a Jouve, il y a Ravier, enfin ils sont très nombreux, ceux qui étaient là à côté de Teilhard, pour dire oui, on pense tous pareil, bravo, le soutenant, mais n'ayant pas les moyens, parce que les jésuites sont tenus à l'obéissance, d'aller au-delà qu'un soutien affectif, au fond. Et puis, j'ajouterais, il y a ce sens de l'amitié et de la relation chez Teilhard. Teilhard ne se construit pas seul, ne vit pas seul, ce qui lui a posé évidemment des problèmes parfois, mais c'est vraiment un homme qui est le symbole de l'amitié, de l'entente. Une des grandes joies de Teilhard, il le raconte, c'est quand il est au milieu des scientifiques internationaux en Chine, qu'il y a des Anglais, des Suédois, des Américains, enfin surtout des Suédois et des Américains. Enfin bref, il y a plusieurs nationalités qui sont rassemblées et il sent que tous ces hommes sont d'accord, s'entendent, arrivent. Malgré évidemment les inévitables conflits scientifiques, mais enfin, il sent quand même quelque chose qui se construit. Ça, Teilhard l'a vécu et il l'a vécu avec ses amis, il l'a fait partager ses amis. Et puis, dans ses amitiés, je soulignerai quand même, parce que c'est pas anecdotique, j'y travaille beaucoup, je le vois beaucoup, ses liens avec ses amies féminines. L'importance a été très, 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 très grande. Et il ne faut pas se méprendre. La fidélité de Teilhard à ses vœux et à son ordre, elle est totale. Donc ses amis devaient partager avec lui ses mêmes idéaux, ses mêmes convictions. Et beaucoup de ses amis partageront ses convictions, comme Marguerite Teilhard-Chambon, Léontine Zantin, sa cousine. D'autres, ça sera plus difficile, notamment Lucile Swann, qui a eu tellement de passion, qui ne pouvait pas s'empêcher de lui dire « mais je voudrais tout, je ne voudrais pas seulement votre amitié, je voudrais vous ». C'est pour ça que la correspondance, c'est un des aspects absolument très émouvants de la correspondance avec Lucile Swann. Mais Teilhard a toujours dit à Lucile Swann, mais non, je suis prêtre, je ne peux pas, je ne veux pas, d'ailleurs ça n'aurait pas de sens. Enfin bref,
Donc l'amitié a été très importante, même l'amitié féminine.
Très claire, il a, comme il le dit lui-même, noyé tout ça dans la lumière, donc il n'y a aucun préjugé à avoir, aucune crainte à avoir. C'est des textes que je n'ai jamais trouvé, même si dans ses lettres, parfois, on dit « c'est un jésuite qui écrit ça à une dame, c'est quand même énorme ». Mais en lisant bien attentivement, c'est très affectueux, c'est très amical, c'est très émouvant, mais ce n'est jamais déplacé. Il n'y a jamais un mot dans la correspondance de Teilhard à une de ses correspondantes qui soit déplacée, équivoque. Jamais, jamais, jamais.
Alors, je crois que vous aurez encore beaucoup de travail, Patrice Boudignon, sur cette correspondance. Je voudrais, pour terminer cette émission, lire les premières lignes de Teilhard que vous citez à la première page de votre livre, parce qu'elles sont très belles, à moins que vous ne vouliez les lire vous-même. Je vous invite à les lire, puisque vous les avez prises de Teilhard dans « La vie cosmique ». C'est un texte qui date de 1916. Si vous les lisiez, nous aurions votre voix en lisant Teilhard.
La vie cosmique n'est pas le premier texte, mais c'est vraiment un texte un des premiers textes de réflexion pendant la guerre. Il date de 1916, c'est ça. J'écris ces lignes par exubérance de vie et par besoin de vivre, pour exprimer une vision passionnée de la Terre et pour chercher une solution aux doutes de mon action. Parce que j'aime l'univers, ses énergies, ses secrets, ses espérances, et parce que, en même temps, je me suis voué à Dieu. Seule origine, seule issue, seul terme. Je veux laisser s'exhaler ici mon amour de la matière et de la vie et l'harmoniser, si possible, avec l'adoration unique de la seule absolue et définitive divinité.
Merci Patrice Boudignon et je recommande la lecture de votre livre pour entrer dans la pensée de Teilhard de Chardin d'une manière à la fois accessible et extrêmement admirative et respectueuse. Ce sont des qualités rares dans un livre. Patrice Boudignon, Pierre Teilhard de Chardin, sa vie, son œuvre, sa réflexion, c'est paru aux éditions Cerf Histoire, c'est dans la collection Biographie. Merci.
Merci beaucoup.